Retraite. Bon, moi, vous me connaissez, je n'ai pas besoin de me présenter. Michel?
Eh bien, bonjour, je m'appelle Michel Borzikowski. C'est la première fois que j'assiste à un Zoom organisé par René. Merci déjà de m'inviter. Et j'espère, bon, j'ai été médecin pendant une quarantaine d'années de ma vie, un peu musicien, particulièrement en klezmer, un peu beaucoup photographe. Et voilà, je suis l'auteur d'une exposition et d'un livre qui s'appelle Objets transmissionnels. Liens familiaux à la Shoah, donc on est en plein dans le sujet, on prend dans le vif du sujet. Et voilà, j'espère avoir l'occasion de vous raconter un peu la genèse de cette exposition, de ce livre, peut-être un petit peu mon histoire personnelle ou l'histoire d'autres personnes, puisqu'il y a 40 témoins qui ont participé. Voilà, tout ça dans la région de Genève, et je me réjouis qu'un jour, vous puissiez m'écouter sur ce sujet, si René le veut bien.
Oui, je veux bien sûr, il suffit de trouver une date.
N'y a qu'un.
André.
Alors, moi, c'est Marcel Gabisson. Je suis sous le nom d'André, mon époux. J'habite Marseille depuis quelques années. Et puis, bon, je fais partie d'une loge à Marseille. Et c'est comme... Voilà, tout simplement.
Je ne vois pas bien, l'image n'est pas bien cadrée.
Attends, je m'en occuperai dès qu'on commence.
Voilà. Alors, c'est Marcel Gabisson.
D'accord, c'est pas André. OK.
André, je suis sous le nom de mon mari pour la tablette, quoi, pour
D'accord.
l'ordinateur. Et je suis très fidèle au Zoom parce que c'est très enrichissant, c'est très agréable, depuis surtout les événements. Et j'habite Marseille depuis quelques années. Je suis venue rejoindre mes enfants avec mon mari. Voilà, tout simplement.
Merci, merci Marcel. Christian? Mets le son. Mets le son.
Mettre le son, le voilà. Pardon, je travaille surtout sur la question de la déportation des homosexuels et je m'intéresse à toutes les déportations. Voilà, je suis là aujourd'hui pour ça.
Suzette.
Moi, je suis Suzette Azan, je suis professeure d'histoire à la retraite. Je me suis vraiment intéressée aussi à l'histoire des Juifs de Marseille pendant la guerre. Voilà, j'ai participé à deux ouvrages sous la direction de Christian Aupetit pour Marseille, Vichy et les nazis et de Robert Mancherini pour Marseille-Provence et les enfants de la Verdière.
Marcel?
Et moi, si je suis médecin retraité, mon métier m'avait accaparé à 150%, ce qui fait que depuis que je suis à la retraite, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, et notamment à l'histoire, à travers une petite activité dans le groupe de recherche d'Edmond Fleid, et une petite activité dans le cadre des réunions organisées par le Pnébrit. Et à ces occasions, j'ai apprécié le travail de René Malfaçon. Et du coup, j'essaye, je dis bien, de suivre un peu vos travaux.
Merci Marcel. Yves? Yves, tu peux te présenter?
Oui, volontiers. Donc Yves Rollin, donc je suis très passionné et soucieux aussi de ce qui se passe dans le monde et c'est pour ça que je suis attaché à travailler avec des historiens. Donc je travaille enfin je travaille moins qu'avant d'ailleurs parce que j'ai d'autres occupations humanitaires, mais je travaille avec l'ARES volontiers, avec l'UNRWEL, avec l'AFMD. Voilà, et puis j'ai eu plus dans un temps plus ancien, j'ai occupé une association de jeunes lycéens européens sur la mémoire des déportés et des résistants. J'ai encore des contacts avec elle d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pris de l'âge, comme on dit, mais je reste toujours très sensible à tout ce qui est fait par ces historiens et par cet engagement auquel je reste associé.
Merci, Yves. Annie?
En tant que germaniste, la question du nazisme, du Troisième Reich et de la Shoah est un thème qu'on traite très souvent à travers des textes qu'on discute. Mais il se trouve qu'en plus, il y a des j'ai eu des activités secondaires, notamment avec Yves Rollin, qui a été mon proviseur. Et nous avons développé au lycée le relais mémoire junior, où nos élèves rencontraient des anciens déportés. Et dans mes échanges auparavant avec Lingua Socrates, ou tous les échanges franco-allemands avec Berlin, les élèves, chaque fois qu'on allait, enfin, les petits Marseillais, chaque fois qu'on allait à Berlin, on allait à Sachsenhausen. Donc tous les ans, j'ai visité Sachsenhausen. Je suis allée une fois pour le lycée Diderot à Auschwitz. Et puis Buchenwald, je l'ai fait aussi dans des stages de formation continue. Donc c'est un sujet que j'ai souvent traité, sans connaître à fond peut-être. Mais ce qui m'intéresse particulièrement ce soir, et c'est pour ça que j'étais un peu en colère de ne pas pouvoir rentrer, c'est que tu traites ce soir, René, des tziganes, et c'est une question qui est citée comme ça, les tziganes, des mots comme les homosexuels, mais jamais j'ai approfondi vraiment la question. Donc, je suis vraiment très intéressée.
Super. Allez, on finit. Ah non, il y a Francine, Liliane, et après, on commence. Francine.
Oui, je suis professeure d'allemand à la retraite, un peu comme tout le monde. Non pas tout le monde professeur d'allemand, mais tout le monde à la retraite. Et je m'intéresse à la mémoire, particulièrement mémoire Arès, puisque c'est le passé de ma famille, mais je m'intéresse dans d'autres circonstances, dans d'autres associations, à toutes les mémoires. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec René.
Liliane. Remets le son.
Bonjour, je suis enseignante à la retraite. Ma passion, c'était l'histoire et j'ai enseigné l'anglais pendant 40 ans. Donc maintenant, je m'intéresse à ma passion. Voilà.
Merci. Je regrette que les instituteurs et les profs qui se sont inscrits ne soient pas là, mais... Oui, Colette, tu m'as appelée. Oui, Colette, tu m'as appelé? Bon, alors d'accord. Allez, je t'embrasse. Bon, alors nous allons commencer. J'explique d'abord parce qu'il y a quand même deux ou trois membres qui ne sont jamais venus. J'explique ce que c'est que ce projet qui nous réunit aujourd'hui. C'est un projet qui est monté par l'association ARES, Association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah, qui est à destination de tout formateur, mais aussi et beaucoup des instituteurs et des professeurs qui se sont inscrits en nombre. Je ne comprends pas trop bien pourquoi ils ne sont pas là. J'ai demandé, alors ce projet c'était de monter un séminaire dans le temps à raison d'une séance par mois en Zoom, puisqu'on ne pouvait pas se le permettre en présentiel, pour montrer un peu les différents aspects des génocides. Parce qu'un des objectifs majeurs de notre association, c'est qu'à travers l'exemple des génocides, essayer d'éduquer à la citoyenneté et au vivre ensemble, mais surtout, j'insiste, éduquer à l'humain, à l'humain. Ça, c'était dans aucune association, ce n'était mis sauf la nôtre, et j'étais très fière d'avoir mis ça la première. Maintenant, il y en a beaucoup. Et donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on a monté un programme. Nous en sommes à la cinquième séance, après avoir eu quatre séances auparavant, les unes sur la place des génocides dans les programmes, la politique antisémite de Vichy que j'ai traitée avec tous ses avatars, et notamment les petits canards, le vilain petit canard qui est Zemmour. Et puis, on a eu aussi les enfants dans la Shoah. Ça, c'est Suzette qui l'avait traité, puisqu'elle est spécialiste Je ne sais pas si vous le savez, mais elle est spécialiste du travail sur la verdière, qui est quelque chose qui est, on peut dire que c'est Lisieux marseillais. Voilà, et on en arrive donc au génocide tsigane que tu es déjà venu montrer lors d'une université d'Arès. Mmh. Et là, je t'avais demandé de t'adresser surtout à des professeurs pour leur donner un peu des pistes de réflexion. Et c'est la raison pour laquelle tu m'as dit « je ne ferai pas de PowerPoint, donc c'est toi qu'on va écouter maintenant. Je te remercie, notre amitié est ancienne et je pense qu'elle durera encore longtemps. » À toi, Claire, je vais te passer, tu vas voir, tu vas arriver au milieu de l'écran. Voilà.
Alors, merci à l'ARES, René, pour cette attention soutenue que tu as à la question des tziganes, car ce n'est pas encore généralisé, malheureusement, dans la conscience de nos concitoyens. Et donc, je suis particulièrement heureuse de contribuer une fois de plus à l'ARES avec ce sujet. Voilà. Alors, j'avais prévu de préparer, en quelque sorte, des outils pédagogiques concernant le génocide, pas de faire une conférence ex cathedra. Et donc, je voudrais essayer, ici, de vous proposer des grands repères sur la question du génocide des Tziganes, pour que chacun d'entre vous puisse en quelque sorte maîtriser quelques éléments indispensables pour approcher ce génocide, pour que chacun puisse s'approprier en quelque sorte la réflexion sur cette question. Alors, pour commencer, de qui parlons-nous ? De qui parle-t-on quand on dit Tzigane ? Car, en particulier pour les professeurs, et surtout professeurs de l'enseignement secondaire, quand il s'agit de répondre à la question des tziganes, on est toujours un peu perdu parce que tout le monde utilise des tas de mots et on ne sait jamais de quoi, comment parler. Alors, les outils. Le premier outil que je pourrais vous recommander, c'est celui-ci. Est-ce que vous le voyez ?
Oui.
Voilà. C'est le livre de Jean-Pierre Liégeois, anciennement professeur à la Sorbonne et responsable pour le Conseil de l'Europe sur la question des Tziganes pendant 30 ou 40 ans. Et son livre s'appelle « Tziganes et voyageurs ». Il est disponible dans toutes les langues européennes et en français, et on l'achète directement au Conseil de l'Europe ou à ses agences. Ce livre est en quelque sorte fait le point sur les questions sociales, sociologiques, qui ils sont, combien ils sont, etc. etc. Ça, c'est un premier outil que je voulais vous indiquer pour les personnes qui voudraient approfondir les questions. Le deuxième outil, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un dossier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez correctement.
Oui.
Ça s'appelle « Les Tziganes » et c'est un dossier documentaire de la documentation française. Je vous donne ces outils volontairement pour, de sorte à ce que ce soit des outils, si je puis dire, indéniables et inquestionnables, parce qu'il y a sur la question des Tziganes des quantités de choses, mais toutes ces choses ne se valent pas et n'ont pas toutes la même, comment dirais-je, fiabilité. Donc ça, c'est un dossier de la documentation française que l'on trouve au Centre national de documentation pédagogique au ministère de l'Éducation nationale et qui est composé d'un certain nombre de chemises, si vous voulez, de dossiers. Alors, il y a les tziganes, il y a le voyage, etc., par exemple, la culture, etc. Donc, ceci pour vous faire savoir que l'on peut se procurer, si l'on en a besoin, des outils qui existent et qui sont faciles d'utilisation. Et enfin, le troisième que je voudrais vous indiquer, c'est un dossier, encore une fois, du Conseil de l'Europe, qui s'appelle « Histoire des Tziganes » dans toutes les langues. Et « Histoire des Tziganes », celui-ci que j'ai en main, je vais l'utiliser beaucoup aujourd'hui, il concerne la France, et chacun... Il fait quatre pages et chacun de ces dossiers est rédigé par un spécialiste du pays ou de la période. Et donc, c'est très, très fiable. Et on le trouve donc auprès du projet Éducation des enfants roms au Conseil de l'Europe. Voilà. Pour ce qui est de aborder la question du génocide des Tziganes en France, quand on est soit peu informé, soit un pédagogue qui doit couvrir tous les sujets à la fois, eh bien, en introduction, je vous propose le roman historique de Paola Pigani, qui est une écrivaine française d'une famille anciennement immigrée italienne, et son livre s'appelle « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». C'est un proverbe tzigane. Ce livre a été fait à partir de sources documentaires historiques réelles, et c'est l'histoire presque réelle, mot pour mot, d'une famille de tziganes français internés dans un camp d'internement français pendant la Deuxième Guerre mondiale, le camp des Alliés à côté d'Angoulême. Donc, c'est un roman, il se lit très agréablement et surtout, il vous permettra d'entrer à l'intérieur de la problématique des personnes concernées elles-mêmes. Alors, tzigane, c'est un mot que nous employons en France et qui désigne la totalité de toutes les variantes et tous les groupes multiples et variés qui se reconnaissent dans cette désignation de tzigane. Normalement, tous les pays d'Europe n'emploient plus ce mot-là, parce que tzigane, ou en allemand tzigeuner, est un mot complètement discriminatoire. Tzigeuner, en allemand, a conservé son sens nazi de discrimination, et donc les personnes d'origine tzigane qui ont milité pour la dignité de leur propre peuple, de leur propre ressortissant en quelque sorte, ont demandé que l'on n'emploie pas le mot tzigane qui dans certains pays signifie esclave et dans tous les pays est un mot péjoratif qui signifie gueux, pouilleux, va-nu-pied, etc., qu'on leur remplace ce mot par le mot de Rome. Rome. Rome, en langue romanie, signifie homme au sens viril, homme ou époux. C'est un mot de la langue romanie. C'est ce mot qui est employé par tous les groupes, absolument tous les groupes, quels qu'ils soient, pour se désigner eux-mêmes, Rome. Mais voilà, il y a en France certaines personnes concernées qui ne veulent pas que l'on les appelle Rome, parce que Rome est devenue, depuis la chute du mur de Berlin, assimilée à ces migrants venus de Roumanie et que l'on retrouve mendiant à tous les coins de rue en France. Et donc, ils ne veulent pas, les citoyens français anciennement implantés en France et qui se nomment plus volontiers eux-mêmes, par exemple, des voyageurs ou des gens du voyage, ils ne veulent pas qu'on les nomme Roms, parce qu'à leurs yeux, un Rom, c'est un migrant. Donc, comprenez tout ce qui est en jeu dans tout cela. Normalement, Rom est valable pour la totalité du monde, pour tous les groupes, tous les pays, toutes les époques. Mais certains groupes sont rétifs à cause d'une interprétation dépréciative de ce mot. Donc, sachez-le, et pour ma part, j'emploie Rome d'une manière générale pour tous les groupes, qu'ils soient gitans espagnols ou gitans d'Afrique du Nord, mais lorsque j'ai en face de moi des personnes concernées, je leur demande comment elles veulent être appelées. Et ainsi, je ne froisse personne. S'ils préfèrent être appelés voyageurs ou gens du voyage, eh bien, je les appellerai comme ils voudront. Mais sachez qu'il s'agit du même groupe, du même peuple, entre guillemets, partout, dans tous les pays, avec la même origine. Voilà. Nous savons que c'est une origine indienne. Nous ignorons tout de la précision de cette origine. Nous le savons par leur langue, qui est une langue cousine du hindi. Bon, alors c'est la langue romanie, c'est une vraie langue qui a été enseignée à l'INALCO. Voilà, alors maintenant, venons-en deuxièmement hein, qu'est-ce qu'on appelle un génocide? Alors, vous serez certainement plus à l'aise avec la définition des génocides qu'avec la définition des tziganes, mais je dois vous dire que cette question se pose concernant les tziganes, car il y a encore parfois certaines personnes qui doutent qu'il se soit agi d'un génocide. Alors, c'est une question avec laquelle je suis particulièrement scandalisée, mal à l'aise. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il s'agisse d'un génocide. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les associations tziganes ont revendiqué le chiffre théorique de 500 000 morts pour toute l'Europe. Théorique. En réalité, il n'était pas tellement loin de la vérité d'après ce que nous savons de nos jours. Ce que l'on sait, c'est que avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des recensements de population dans tous les pays d'Europe et que la totalité des Roms recensés dans tous ces pays d'Europe a apporté un nombre de 1 million de Roms pour toute l'Europe, avant-guerre. Or, de nos jours, étant donné que les études dans ce domaine ne cessent d'avancer, et en particulier avec de nouveaux territoires étudiés comme les territoires d'Europe de l'Est, et surtout de l'ancienne Union soviétique, eh bien les chiffres ne cessent d'augmenter. Donc, je vous suis reconnaissante à tous de bien vouloir vous souvenir que les Roms d'Europe ont subi un génocide très violent et de le rappeler à ceux de vos interlocuteurs qui pourraient l'oublier. On se souvient fort bien qu'il y a eu un génocide au Rwanda. On se souvient fort bien qu'il y a eu un génocide des Arméniens, mais on oublie souvent qu'il y a eu un génocide des Tziganes dans la Deuxième Guerre mondiale. Un génocide comme les Juifs pour des raisons raciales. Ils sont le seul groupe humain qui, comme les Juifs, a subi cette persécution et cette destruction pour raisons raciales. Voilà. Je voudrais vous le rappeler d'autant plus que, par exemple, hier, il y a eu des frappes en Ukraine contre le site de Babi Yar. Comme vous le savez, le site de Babi Yar est le site d'une extermination terrible que l'on appelle la Shoah par balle, dans laquelle 30 000 Juifs ont été assassinés. Eh bien, l'on ne dit jamais qu'il y avait aussi un très grand nombre de Roms à Babi Yar qui ont été assassinés, tout comme les Juifs jetés dans les ravins de Babi Yar. Et donc, ça m'a rappelé une fois de plus que ce génocide doit être enseigné pour que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé. Alors, maintenant, pourquoi a-t-on persécuté les Tziganes? Pourquoi? Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes raisons que pour les Juifs, il y avait des raisons spécifiques. De nos jours, on utilise facilement le terme de anti-tziganisme, qui a été reconnu par l'ensemble des personnes impliquées, notamment auprès du Conseil de l'Europe, de tous les pays d'Europe. On emploie le mot volontiers, le mot de anti-tziganisme pour signifier le racisme particulier qui touche les tziganes. Ce racisme, comme tous les racismes modernes, il naît à la fin du XIXe siècle. Il naît à la fin du XIXe siècle et il prend la forme particulière d'un fichage des populations tziganes. Et cela dans toute l'Europe. En France, à la fin du XIXe siècle, 1895, on commence à faire ce que l'on a appelé les fiches anthropométriques. Ça n'était pas exclusif aux tziganes. Toutes les populations, un tant soit peu marginales ou surveillées, étaient fichées avec ces fiches anthropométriques. Mais, par exemple, les militants politiques étaient fichés avec des fiches anthropométriques. Mais concernant les tziganes, c'est au titre de tziganes qu'ils étaient fichés, ce fichage anthropométrique, qui a abouti en 1912 à une loi que tous les historiens du génocide des tziganes considèrent comme précurseur, la loi du 12 juillet 1912, une loi mettant
organisant ce que l'on a appelé le carnet anthropométrique, c'est-à-dire que les tziganes devaient avoir sur eux un carnet qui les définissait, qui remplaçait en quelque sorte une sorte de carte d'identité, mais qui les définissait et qu'ils devaient montrer à la gendarmerie à tout instant et à tout propos. Ce carnet anthropométrique a duré de 1912 jusqu'en 1969. Il a été aboli en 1969, contre-coup, si je puis dire, de mai 68 sur les tziganes français, mais remplacé immédiatement par ce que l'on a appelé un livret de circulation qui a duré de 1969 jusqu'à 2016, livret de circulation qui a été aboli par François Hollande. Et c'est vous dire la longévité de la stigmatisation des tziganes. Bon, alors, ce fichage des populations tziganes, il faut savoir que donc, il a eu lieu dans toute l'Europe. Il y avait une police française qui travaillait de concert avec des polices de chaque pays d'Europe et qui, en 1923, s'est fondée, a changé son nom et s'est formalisée sous le titre de Commission internationale de police criminelle, fondée en 1923 à l'issue de presque 20 années de fichage des tziganes, dont le siège était à Vienne, en Autriche, jusqu'à l'annexion de l'Autriche en 1938. Lorsque, en 1938, l'Autriche a été annexée, cette commission internationale de police criminelle qui rassemblait toutes les informations sur les fichages des tziganes de toute l'Europe a été transférée, non pas en Suisse, parce que la Suisse a refusé de recevoir ce siège, mais à Berlin. Alors, je vous laisse comprendre que la destruction des tziganes d'Europe est une destruction qui a utilisé des outils qui ont été pensés, peut-être pas du début à la fin dans une volonté d'anéantissement total, non, peut-être d'une manière empirique, mais en tout cas, il y avait des outils et des outils internationaux, et ces outils ont abouti au final entre les mains des nazis. Bon, alors.
Les tziganes.
C'est bon signe aussi. C'est bien.
Alors, qu'est-ce que l'antitziganisme ? L'antitziganisme ne bénéficie pas, à l'instar de l'antisémitisme, d'une grande étude magistrale comme par exemple celle de Poliakov. Nous n'avons pas ces outils. Nous sommes encore avec des outils empiriques, effectivement. Mais enfin, il y a une tentative pour trouver une définition sur laquelle tout le monde s'accorde de l'antitziganisme, et je vais vous la lire. On appelle antitziganisme les stéréotypes et préjugés visant à déshumaniser une personne supposée tzigane en lui attribuant par essence des vertus et des vices imaginaires, en lui refusant toute identification comme être humain égal. L'antitziganisme n'est pas l'apanage des mouvements d'extrême droite, même si c'est là qu'il est le plus visible, car il se retrouve dans toutes les couches de la société et dans toutes les opinions. Voilà, donc je me bornerai à cette première tentative de définition de l'antitziganisme. Je vais vous donner un contre-exemple. Si une personne tzigane française, si elle ne circule pas en caravane, si elle a un logement fixe, et j'en connais plein, qu'est-ce qui va la distinguer de son voisin ? Rien. Si ses enfants vont à l'école, rien ne va la distinguer de son voisin. Et des gens comme ça, il y en avait plein.
il y en a toujours eu plein. Ce que l'on voit de manière visible comme tzigane désignée pour tel, c'est la toute petite partie des personnes qui ont un mode de vie résiduel que l'on désigne pour être des tziganes. L'Allemagne nazie était pleine de classes moyennes tziganes qui vivaient en appartement avec des métiers fixes et qui ont été déshumanisées et discriminées et anéanties. Alors, quelles sont les grandes dates de la destruction des tziganes en Europe et en France? Alors, en Europe, bien entendu, tout se joue autour du Troisième Reich, puisque c'est le moteur de l'anéantissement. Donc, le Troisième Reich, c'est lui le premier qui édicte des lois d'anéantissement contre les tziganes. Dès 1933, fin janvier, Hitler prend le pouvoir. Deux mois plus tard, le camp de Dachau est ouvert et les premiers tziganes autrichiens dès 1938 seront acheminés à Dachau. Les lois du Troisième Reich anti-tziganes, je vais vous les indiquer. Ce sont des mesures juridiques qui ont été prises sans aucun précédent dans l'histoire. Elle commença, cette liste de lois, par la stérilisation de prétendus asociaux. Parmi ces asociaux, il y avait des tzigoïners. Le 2 novembre 1933, et se poursuivit crescendo jusqu'à la solution finale. En 1934, la loi contre les criminels irrécupérables et dangereux, c'est ainsi que l'on a nommé désormais les tziganes, des criminels irrécupérables et dangereux, c'est-à-dire qu'on les a criminalisés pour pouvoir s'acheminer dans cette grande route de l'extermination. En septembre 1935, les lois de Nuremberg, dont vous avez certainement déjà entendu parler, dites sur l'aryanisation, ouvrent la voie à la hiérarchisation des personnes et les tziganes deviennent dans ces lois des criminels irrécupérables, désignés pour tels. Le 14 septembre 1935 est votée une loi qui définit la nouvelle citoyenneté. Devient criminel quiconque n'est pas conforme aux normes de la pureté de la race. 10 février 1936, je suis toujours en Allemagne, la loi donne les pleins pouvoirs à la police et la lutte contre les tziganes en Allemagne est centralisée. 18 décembre 1938, Himmler ordonne la répression contre le fléau tzigane. Qui a inventé l'expression « lutte contre le fléau tzigane » ? La police criminelle dont je vous ai parlé il y a un petit moment. La lutte contre le fléau tzigane, c'était une expression qui préexistait à l'instauration du national-socialisme. 27 avril 1940, c'est le coup d'envoi de la déportation des Sinti vers l'Est. Je ne vous ai pas dit encore qu'en Allemagne, les tziganes d'implantation très ancienne, depuis 5 ou 6 siècles en Allemagne, se nomment eux-mêmes des Sinti, l'équivalent des Manouches en France. 1941, Himmler ordonne de répertorier tous les tziganes vivant en Allemagne, mais il l'était déjà. Été 1942, les tziganes sont assimilés aux juifs dans le traitement par les nazis. C'est en 1942 que se fait la jonction dans les ordres nazis. Himmler ordonne la déportation généralisée des Tziganes. 1943, c'est la mise en application de cet ordre. Le premier convoi de Sinti et de Roms arrive à Auschwitz le 26 février 1943. Dès ce moment-là, 1943, chaque convoi vers les camps recèle son wagon de Tsigoïnes ou de Roms étrangers. Ça, c'est pour la partie allemande. Je voudrais vous faire représenter une vue d'ensemble. La déportation et la destruction des Tziganes d'Europe a obéi dans tous les pays d'Europe, qu'il s'agisse d'Europe de l'Ouest ou d'Europe de l'Est, qu'il s'agisse de pays conquis, de pays alliés ou de pays indépendants, ont obéi à trois étapes dans tous les pays. La première étape, c'est l'arrêt du mouvement. Le mot clé de la lutte contre les Tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est nomade. C'est au nom d'un prétendu nomadisme que tous les régimes de la Deuxième Guerre mondiale ont lutté contre les Tziganes. On a d'abord arrêté les soi-disant nomades en croyant que les sédentaires allaient échapper à la déportation ou à l'arrestation, et ensuite on a arrêté les sédentaires, c'est-à-dire que rien n'a protégé les Tziganes d'aucun pays. Premièrement, on arrête leur mouvement. Pour ce qui est de la France, je vous donnerai les indications précises, des dates précises. D'abord, on arrête le mouvement et on immobilise les Tziganes sur leur lieu de vie. Et quelquefois, on les rassemble dans des camps locaux, départementaux. En France, en Allemagne, ça a été fait dans les deux cas. D'abord, des camps locaux. La deuxième étape de la destruction des Tziganes consiste à les rassembler depuis les camps locaux où ils sont, vers des camps nationaux. Des camps nationaux, nous en avons eu en France, Montreuil-Belay. Et nous en avons eu en Allemagne, par exemple, Marzahn, en banlieue de Berlin, à partir de 1936. La troisième étape, vous la connaissez. C'est celle qui va des camps nationaux vers les camps de la mort dans la partie occupée de la Pologne par les nazis, c'est-à-dire les six camps de la mort que vous connaissez. Ce sont les trois étapes de la destruction des Tziganes. Ces trois étapes, on les retrouve dans presque la totalité de l'Europe, avec bien entendu des nuances selon les régimes politiques, évidemment. La situation française, à part ces grandes lignes que je vous ai données, n'est évidemment pas la même que la situation allemande, n'est pas la même que la situation roumaine, yougoslave ou russe, etc. Alors, je voudrais vous donner peut-être quelques éléments concernant la France. En France, vous le savez, donc la guerre démarre le 3 septembre 1939. Le 22 octobre 1939, moins de 2 mois plus tard, 8 départements de France de l'Ouest sont interdits aux nomades, entre guillemets. Ces nomades qui sont fichés par leur carnet anthropométrique et identifiables par ce carnet. Au prétexte qu'ils pourraient être des espions et que donc il faut leur interdire un certain nombre de lieux. Le 6 avril 1940, nous sommes toujours sous la Troisième République. le 6 avril 1940, le président de la République entérinait cette interdiction. Avec la circulaire suivante, la circulation des nomades est interdite sur tout le territoire métropolitain pour la durée de la guerre. Et décrète la résidence surveillée et l'assignation à résidence. Le 29 avril 1940, nous sommes toujours dans la Troisième République, mais nous sommes en guerre. Des précisions sont édictées. Il s'agit bien des porteurs du carnet anthropométrique qui devaient être immobilisés à proximité des gendarmeries. Les Tziganes français sont donc surveillés sous la surveillance des gendarmes français. L'application en est fixée au journal officiel du 9 avril 1940. Donc on n'est pas dans des mots comme ça en l'air. Le recensement des bohémiens démarre par département. Chaque département commence en ordre dispersé à recenser ses bohémiens. Le 4 octobre 1940, nous ne sommes plus dans la Troisième République, nous sommes dans l'État national de Pétain et nous sommes un pays occupé et vaincu, la France. Le 4 octobre 1940, l'internement des Tziganes en zone occupée est décrété. Alors, il y a deux formes en France, deux grandes formes de la persécution des Tziganes. La première, c'est l'assignation à résidence surveillée, qui leur interdit donc de circuler. Sachez que le mot de nomade est particulièrement inapproprié pour les Tziganes, car les circulations des Tziganes se faisaient uniquement à l'intérieur d'un même territoire. Il était très rare qu'on circule même simplement dans tout le pays et encore plus rare qu'on circule dans les frontières extérieures. C'était des familles résiduelles dont, par exemple, l'émigration était récente, peut-être si vous étiez des Roms d'origine russe de la fin du 19e siècle, effectivement, vous pouviez aller une fois peut-être jusqu'aux confins de la Russie, mais c'était des choses très résiduelles. L'essentiel des circulations se joue à l'intérieur d'un même département en France. Donc, l'interdiction de circuler au prétexte de mesures de guerre fait que les Tziganes n'ont plus de moyens de vivre, ils n'ont plus de revenus. Donc, ils sont interdits de circuler, ils ne peuvent plus gagner leur vie. Ils sont donc affamés, ils sont donc contraints en quelque sorte à l'illégalité. Et quand on les prend dans l'illégalité, à avoir outrepassé, par exemple, les limites du lieu où ils auraient dû être, hop, on les prend et on les met en camp français que l'on appelle des camps d'internement, comme vous le savez, mais le vocabulaire administratif de l'époque disait également camps de concentration. Les deux termes sont exacts. Ces camps, vous le savez, n'ont pas été construits pour les Tziganes. Ils ont été construits en novembre 1938 sur décret de la Troisième République. Contre qui ? Contre les républicains espagnols. C'étaient les républicains espagnols qui ont été les premiers internés de ces camps, puis ensuite les citoyens allemands fuyant le nazisme, parmi lesquels une immense majorité de juifs ont été internés dans ces camps. Vous en avez un exemple en région marseillaise, un très bel exemple, c'est le camp des Milles. Dans ce camp des Milles, j'ai cherché en vain la trace de quelques Tziganes que ce soit, je n'en ai jamais trouvé, mais ce camp existe. Et j'en ai perdu ma démonstration. Donc, ils sont mis dans ces camps, et ces camps d'internement ne se sont fermés pour les Tziganes que en 1940. 1946, car à la libération, on les a oubliés. Les Tziganes ont été tellement déshumanisés, je ne vous parle pour l'instant que du régime français, tellement déshumanisés, qu'on leur a refusé toutes sortes de pratiques de résistance. On a toujours considéré que leurs faits et gestes étaient des faits de droit commun et non pas des faits de résistance à l'ennemi ou contre le sort qui leur était fait à eux-mêmes. Et on a donc considéré que leur place était très bien dans les camps d'internement à la libération. Et il a fallu l'abrogation par décret de l'état de guerre en mai 1946, pour décréter la fin des camps d'internement français. Et c'est alors, en juin 1946, que les derniers Tziganes citoyens français ont quitté les derniers camps. Vous voyez qu'il y a donc une continuité. Alors, que voulait-on en France? On voulait assimiler les Tziganes et que cesse cette circulation, qui cependant, je vous le répète, n'était pas une circulation extravagante. On voulait que cesse le nomadisme. Il s'agissait d'assimiler ces familles, de les faire entrer dans des maisons fixes, avec des emplois fixes, et que cesse cette particularité qui était le mouvement de leur part. Et c'est pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin, à la libération, eh bien, les autorités françaises ont considéré que cette politique d'assimilation des Tziganes, finalement, avait du bon et qu'on pouvait la faire perdurer. Voilà. Alors, vous dire que je vais vous laisser la parole pour peut-être répondre à l'une ou l'autre de vos questions, vous dire qu'on connaît particulièrement bien le camp des familles tziganes de Auschwitz. On le connaît particulièrement bien parce que les responsables de l'administration, de la gestion de ce camp étaient des résistants polonais. Ils ont tout noté. C'était eux qui notaient l'enregistrement, l'arrivée des personnes tziganes dans le camp des familles d'Auschwitz, leur nom, etc. Et à la veille de la libération du camp, ils ont enterré le registre des entrées des Tziganes dans le sol. Et plusieurs années plus tard, l'un d'eux est venu déterrer ce registre et le donner au musée d'Auschwitz. Et c'est la raison pour laquelle nous connaissons si bien l'histoire de ce camp des familles, parce que nous avons les sources de l'histoire. Et ces sources de l'histoire, je l'ai demandé il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, à mes collègues allemands du Conseil central allemand pour les Roms et les Sinti, qui sont pionniers pour la mémoire des Roms de la Seconde Guerre mondiale. Je leur ai demandé, est-ce que nous disposons de ces mêmes sources pour les autres camps de la mort, Treblinka, Majdanek, etc. Et non, nous ne disposons pas de même source historique, pour plusieurs raisons, mais la raison principale qu'ils m'ont indiquée, c'est parce que la plupart de ces camps, à la différence d'Auschwitz, n'étaient pas des camps où c'était des usines de la mort, c'est-à-dire que les gens arrivaient directement à la chambre à gaz, ils restaient peu de temps sur place. Ça pouvait arriver, les choses sont variables, mais c'est l'explication principale pour laquelle nous n'avons pas ces sources pour les autres camps de la mort. Voilà. Plus de 20 000 Tziganes de toute nationalité ont transité par Auschwitz, plus de 20 000. Si vous connaissez l'histoire d'Auschwitz, vous savez que certains des déportés d'Auschwitz ont été à Auschwitz, puis ensuite redirigés vers d'autres camps. C'est la raison pour laquelle beaucoup des Tziganes d'Auschwitz sont passés par Auschwitz, mais ont été redirigés vers d'autres camps ensuite, Mauthausen, Buchenwald, etc. Et la nuit du 2 août 1944. Le camp des familles roms a été liquidé par les nazis. C'est la raison pour laquelle le 2 août est devenu la journée internationale du souvenir de la destruction des tziganes d'Europe. Ce jour-là, 2800 tziganes ont été gazés dans les chambres à gaz. Vous voyez donc la différence entre ce chiffre de 2800 et le chiffre des 20 000 qui ont transité par Auschwitz. Il faut vous dire que, pour l'honneur et la dignité des Roms, le 16 mai 1944, les nazis sont venus au camp des familles pour essayer de les exterminer dans les chambres à gaz. Mais, prévenus les tziganes par la résistance polonaise qu'ils allaient être emmenés à la chambre à gaz et qu'il fallait résister. Ils ont résisté. Ils se sont munis de pelles, de pioches, de barres, de bois. Et lorsque les nazis sont arrivés à l'entrée des baraques en leur intimant l'ordre de sortir, ils ne sont pas sortis. Et les nazis ne comprenaient pas ce qui se passait et finalement sont repartis bredouilles et la résistance a donc vaincu. C'est la raison pour laquelle les militants tziganes pour la dignité des Roms aujourd'hui ont choisi la date du 16 mai comme jour de la fierté tzigane, jour de la résistance aux nazis. Qu'ont fait les nazis? Ils ont redistribué toutes les personnes valides du camp des familles vers d'autres camps. Et c'est ainsi que 2500 ont été expédiés à Buchenwald à la suite de ce 16 mai. À Buchenwald, Mauthausen et partout, Oranienburg, etc. Et c'est pourquoi ne sont restées sur place uniquement les personnes vulnérables, femmes, enfants, vieillards. Et ce sont les personnes qui ont été gazées dans les chambres à gaz ce 2 mai 1944. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais vous raconter l'histoire de cette Ella. Voilà. Si vous êtes des habitués des mémorials de l'Holocauste de par le monde, vous connaissez cette image. C'est l'image de cette Ella. Cette image qui ici est redessinée, c'est une vraie photo que l'on a longtemps appelée la déportation anonyme. Il s'agit de la déportation d'un convoi hollandais, parti du grand camp de regroupement, comme je vous ai dit qu'il en existait dans tous les pays nationaux, le grand camp de regroupement national hollandais qui s'appelle Westerbork. Il y avait des petits camps locaux et quand on avait besoin, on regroupait les gens dans le camp national en Hollande comme ailleurs, Hollande occupée comme vous le savez, Westerbork. Et le 16 mai 1944, les caravanes sont envoyées au camp de Westerbork. Le 19 mai 1944, un groupe de Sinti est envoyé du camp de Westerbork à Auschwitz. Et le 2 août 1944, c'est-à-dire 3 mois plus tard, c'est la liquidation du camp des familles. Alors, cette image, longtemps appelée la déportation anonyme, un journaliste hollandais a cherché à identifier qui était ce visage. Il a étudié tous les films. On a des films de ce convoi. On voit les nazis, on les voit remplir les convois, etc. Et on voit cet enfant passer sa tête entre deux portes du convoi. Et il a cherché partout, auprès de tous les survivants, auprès de tous les mémorials, qui était cet enfant. Et aucune des personnes interrogées qui a participé à ce convoi, etc., personne juive, puisque bien entendu, il était certain qu'il s'agissait d'une enfant juive, personne ne connaissait cet enfant. Lorsque, par un déclic étrange, comme il en arrive parfois, quelqu'un s'est souvenu que ce qu'on voit recelait également des wagons de Sinti. Alors, l'enquête a changé son cours. Et finalement, l'enquête a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, le journaliste a obtenu l'adresse d'un campement actuel de tziganes hollandais dans lequel il s'est rendu il y a 20 ans de cela, 20 ans. Et il a trouvé, avec le plus grand mal, une vieille femme. Et il lui a montré cette photo. Et cette vieille femme lui a dit, « Mais bien sûr, je la connais, j'étais dans le wagon avec elle. » Le journaliste n'en croyait pas ses yeux. Et finalement, cette vieille femme a fini par se souvenir, elle s'appelait Setella, Setella Steinbach, et elle était en train de regarder un chien, et sa mère lui disait, retire ta tête des portes, tu vas être décapité. Cet enfant, Setella, est devenu l'équivalent de Anne Frank dans l'iconographie de la destruction des tziganes d'Europe. Cette photographie se trouve à Yad Vashem notamment, mais je crois qu'elle est également à Washington et bien sûr sur les sites dédiés spécialement au génocide des Tziganes. Je vous laisse la parole, je pense qu'il est temps. René.
Oui, je te remercie Claire pour cet exposé aussi limpide que fournit, parce que tu nous apportes des éléments nouveaux. Moi, je suis un peu époustouflée de la quantité de choses nouvelles que tu nous apportes. Et ce que je voulais te demander pour poser la première question, c'est tu dis que ce sont les résistants polonais, oui, bien sûr, c'est eux qui commandaient, puisque les nazis avaient la manie de faire commander par ceux qui étaient des victimes. Donc, c'est eux qui ont averti les Roms et que c'est eux qui ont tenu, en quelque sorte, le fichier. Mmh. Et est-ce qu'il y a un Klarsfeld hollandais qui aurait pu nous mettre des noms sur les différents convois?
Alors, sur les différents convois, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans ce fichier, il y a les noms de 20 000 tziganes européens. Ces noms existent. Ils sont écrits et nous les avons. Je ne vous ai pas montré, mais je vais le faire maintenant. Vous voyez ce livre? Il est énorme. Il est écrit en polonais, mais il existe en allemand et en anglais. C'est le livre de la déportation au camp d'Auschwitz des Tziganes de toute l'Europe. Vous y trouvez une abondance de photographies. C'est le livre rédigé par les Tziganes allemands dont je vous ai parlé tout à l'heure, le conseil des Tziganes allemandes et des Sinti et des Roms allemands, conseil national, c'est eux qui ont illustré et fourni la baraque, le bloc numéro 13 d'Auschwitz, et vous pouvez retrouver toutes les photos ici. Ils ont fait un travail absolument gigantesque et tout est là. Moi, je l'ai en polonais, je ne lis pas le polonais, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres langue le jour où je suis allée à Auschwitz et où j'ai acheté ce livre. Voilà. Donc, nous avons les noms, René, pour Auschwitz uniquement, mais il n'y a pas de Serge Klarsfeld. Les travaux avancent vite, avancent bien, mais ils sont très loin du compte. On est très loin du compte.
Parce que, tu vois, en 1990, tu vois, si ça remonte loin, à cette époque-là, j'avais été invitée à un colloque à Londres, où pour la première fois, vraiment la première fois, j'entendais un témoin tzigane. Et donc, ce témoin tzigane, bon, il était entouré de folklore, parce que, par exemple, il était venu dans un cerf. On avait l'impression que c'était la même chose qu'une réserve indienne, tu vois. Et ce qu'il avait pu dire, c'est sa peine, c'est tout. Il n'avait rien pu apporter comme élément concret de ce génocide, en quelque sorte. Et nous étions tous restés sur notre faim parce qu'on attendait autre chose. Et alors là, il y a un professeur d'université londonien qui est venu nous expliquer qu'en fait, l'historiographie du génocide tzigane était cassée début. Nous étions, je rappelle, en 1990. Et voilà, donc voilà ce souvenir pour un peu agrémenter ton discours.
Alors, j'ai écrit ce livre, Samoudaripen, le génocide des Tziganes. Ce livre est encore disponible, il suffit de le demander à votre libraire. Il se voulait une sorte de, que sais-je, un résumé un peu sur les génocides des Tziganes. Et une prochaine édition va être à nouveau publiée, d'ailleurs, au cours de cette année. Je vous explique pourquoi Samoudaripen et je vais enchaîner pour répondre à ton interrogation, René, sur les témoignages. Samoudaripen, c'est le nom qui a été proposé par le linguiste français Marcel Courtiade, qui enseignait la langue romanie à l'INALCO. Il est décédé de nos jours, il y a 2 ans, pas plus. Samoudaripen, qui signifie « massacre total ». C'est un néologisme, il n'existait pas. Mais c'était pour faire écho à la proposition de Claude Lanzmann d'utiliser le mot « Shoah » s'agissant de la destruction des Juifs d'Europe. Et donc, comprenant qu'il était important de marquer une spécificité, il a forgé ce néologisme que j'ai repris et diffusé dans la sphère francophone. Il y a d'autres mots. Personne n'est d'accord sur le terme définitif que l'on pourrait employer. Il y a poraimos, il y a holocauste, il y a génocide. Donc, ne soyez pas surpris de voir employer divers mots. Il est bien normal que les Roms ne soient pas tous d'accord sur une chose unique, comme les autres. Maintenant, s'agissant des témoignages, René, tout comme d'autres victimes de la Seconde Guerre mondiale, ils ont commencé, pour certains d'entre eux, par se taire. D'abord, certains essayent de parler et on ne les écoute pas, ça c'est premièrement, et d'autres ne peuvent pas parler. J'ai été extrêmement frappée du témoignage d'un tzigane français paru dans un film sur FR3 il y a 25 ans de cela. J'ai quelque part, je crois qu'il s'appelle Le Clou Rouillé, il est forcément disponible quelque part en archive, et c'est un tzigane français qui a été arrêté au fond des bois en France, en Ariège, et déporté à Buchenwald. Les Français continuaient de dire qu'il n'y avait pas eu de déportation dans les grands camps allemands pour les Tziganes. Bon, eh bien cet homme, tout ce qu'il pouvait dire, c'est « j'ai été employé au four crématoire et j'ai les yeux brûlés, je ne vois plus rien ». Et il disait peu de mots lui-même et on sentait que ça avait été une expérience bouleversante et définitive dans sa vie, une blessure irréparable, mais il avait peu de mots pour le dire. Mais d'abord, le temps avance et de nos jours, beaucoup de monde recueille la mémoire des témoins tziganes, beaucoup. Il y en a en Roumanie, beaucoup. En Roumanie, ça a été un désastre, la politique de Antonescu. Il y en a en France. En France, autour de Bordeaux, il y a eu un camp français qui s'appelait Mérignac
et un anthropologue français, Emmanuel Filliol, a recueilli les mémoires des Tziganes de ce camp. Et puis, une jeune fille qu'on vient d'entendre la semaine dernière à France Culture, qui vient de sortir un livre, Lise Foineau, a également collecté sur les terrains de stationnement de Tziganes français la mémoire des enfants et des petits-enfants, puisqu'il ne s'agit pas des témoins directs. Et puis, un prêtre a créé à Paris une association qui s'appelle Yad in Unum, de solidarité entre juifs et chrétiens, c'est son propos, et son travail consiste essentiellement à recueillir les témoignages sur les fronts de l'Est de la Shoah par balle. Et il a formé des quantités de tziganes et il recueille les témoignages, encore une fois, ou bien de personnes très âgées, ou bien d'enfants, voire de petits-enfants, sur les fronts de l'Est, concernant donc l'extermination par balle, par les Einsatzgruppen. Voilà. Donc, nous n'avions pas, en 1990, pas beaucoup ou pratiquement aucun témoignage, René. Mais aujourd'hui, nous en avons. Nous en avons beaucoup plus. Voilà. Et les jeunes tziganes, notamment français, qui sont parmi les derniers à se soucier de cette question, commencent maintenant à revendiquer une mémoire de ce génocide.
J'ai une deuxième question. Est-ce que tu es au courant de ce qu'on a réussi à faire à Salers, près d'Arles?
Oui, bien sûr. J'ai souvent participé aux commémorations de Salier. Alors, Salier est un camp spécial, puisqu'il est un camp qui a été créé de toutes pièces par Pétain, parce que c'était le lieu de ce fameux pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, qui, soit dit en passant, a été folklorisé par Frédéric Mistral et d'autres. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire des Saintes Maries de la Mer, mais enfin, toujours est-il qu'on a créé ce camp à cause des Saintes Maries de la Mer, à 10 km ou 5 km au nord de Arles, sur une petite route départementale, sur un terrain dont les enfants de la famille des propriétaires sont toujours propriétaires aujourd'hui. Ils ont refusé que l'on entre sur le terrain pour y construire un mémorial, raison pour laquelle il y a aujourd'hui un mémorial sur la route départementale.
Oui.
Vous pouvez le voir, c'est un monument qui montre en quelque sorte, si mes souvenirs sont bons, un violon brisé. Et voilà, donc ce camp était censé être un outil de propagande internationale pour montrer combien le gouvernement de Vichy traitait bien ces tziganes. Donc, il est absolument ahurissant. Il y a eu 26 morts quand même de maladies au camp de Salier, 26 quand même. Mais la propagande de Vichy, c'était à la suite d'une visite de Quakers américains qui s'affolaient des conditions de vie dans les camps français, que Pétain a brandi ce nouveau camp en prétextant qu'il était bienveillant à l'égard des tziganes, qu'ils pouvaient mener la vie qu'ils voulaient, faire leur métier traditionnel, habiter des maisons traditionnelles camarguaises, et qu'il n'y avait bien sûr aucune brutalité, ce qui évidemment était tout à fait faux. Voilà.
Alors la balle est dans votre camp. Quelles sont les questions suivantes?
Comme outil pédagogique, je vous propose également ce film. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, je ne vais pas toutes vous les sortir, mais voilà un film qui s'appelle « Pologne, aller-retour » et qui est le film. Le film est de Anna Pitoun. Vous voyez correctement? C'est l'histoire d'un voyage organisé de visite à Auschwitz depuis la France entre l'Union des étudiants juifs de France et des tziganes français. Ça a été organisé par l'Association solidaire d'action avec les gens du voyage, la FNASAT, et l'Union des étudiants juifs de France. Et là-dedans, vous voyez tout le parcours du début jusqu'à sur place, jusqu'au retour, et ce que disent les gens, qui sont les tziganes qui ont participé, quelles sont les questions que ça leur pose sur place, comment ils réagissent. Et c'est très éclairant. Voilà, donc ça s'appelle Pologne aller-retour. On trouve ce matériel documentaire à l'association Études Tziganes, dont le siège est à Paris, et vous avez une association semblable à Marseille, qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais avec Alain Fourest. Voilà.
Question ? N'oubliez pas d'enlever, de remettre en route votre haut-parleur.
Il existe aussi des films. Il y a plusieurs films pédagogiques sur la destruction des tziganes d'Europe. Il y en a un qui a été réalisé par Henriette Asseo, qui est disponible, qui s'appelle « L'autre génocide ». Et il y en a un autre qui a été réalisé par des Québécois, qui s'appelle « Une population négligée ». Donc, il y a plusieurs films qui sont des films complet, qui donne une très bonne vue d'ensemble, qui dure 50 minutes et qui donne une très bonne vue d'ensemble pour quelqu'un qui aurait besoin de matériel pédagogique.
Une question encore, même si elle est un peu triviale. Est-ce qu'il y a eu des indemnisations pour les tziganes comme il y en a eu pour les juifs, payées par l'Allemagne essentiellement ?
C'est la question que je connais le moins bien et le plus mal. Ouais. Il y en a eu, bien sûr. Il y a surtout eu des demandes, mais elles n'ont pas toutes été instruites au motif que ces demandes étaient administrativement incomplètes et que les tziganes n'ont pas été capables de faire valoir leurs droits dans les formalités administratives requises. Il y a 20 ans de cela ou 15 ans de cela, lorsque la question de l'or des nazis, vous vous souvenez, en Suisse, a été mise sur la table, on a parlé de réparations distribuées aux Roms, à des Roms. Les Roms qui ont pu venir réclamer, se faire, comment dirais-je, répertorier. Et on a dit, mais je n'ai pas vérifié, que la somme de 1 000 euros aurait été distribuée à des Roms roumains, par exemple, qui en auraient fait la demande. C'est-à-dire que, oui, il existe des dossiers, des demandes de réparation. Là où on le connaît le mieux, c'est en Allemagne. En Allemagne, les Sinti et les Roms allemands n'étaient pas au bout de leur peine. Car que s'est-il passé en Allemagne, comme dans d'autres pays d'ailleurs, mais c'était plus grave en Allemagne qu'ailleurs, c'est que les spécialistes de la destruction des tziganes nazis sont restés en poste après la Deuxième Guerre mondiale, et que c'était souvent eux qui étaient les experts auprès des tribunaux pour instruire les demandes d'indemnisation, demandées, présentées par des tziganes allemands. Et c'est ainsi que ça a été une bagarre terrible pour les Sinti allemands que de se faire obtenir ces réparations. Certains l'ont obtenu, d'autres pas, mais les dossiers, ils se sont heurtés à ce problème particulier de se trouver en face d'experts qui étaient des notables de l'extermination au temps des nazis. Nous avons eu un problème bien moindre, mais analogue, en moindre intensité, en France, lorsque nous avons eu des préfets qui avaient été à l'œuvre sous Vichy et qui ont été recasés ou à l'œuvre à nouveau après Vichy. Ça a été le cas également pour certains tziganes français. Mais je suis incapable de vous faire un point de bilan convenable sur cette question.
Merci, merci beaucoup, Claire. Pas de questions. Francine, tu as une question? Le micro. Remets le micro.
Oui, j'avais entendu des choses un petit peu analogues par nos amis slovaques quand ils m'ont parlé des tziganes et des Roms qui, en Slovaquie, n'étaient pas obligatoirement très considérés à l'heure présente. Surtout ceux qui venaient de Roumanie, maintenant, est-ce que c'est exact ou pas?
Je confirme, je ne vous ai rien dit de la Slovaquie, comme je ne vous ai rien dit de la Hongrie, parce que je veux survoler un peu, mais je confirme absolument qu'en Slovaquie, il y a eu un camp, un grand camp, Odonin, il s'appelait Odonin, un grand camp donc national, d'où sont partis grand nombre d'entre les tziganes internés dans ce camp national, sont partis vers Auschwitz. Donc nous avons eu toute l'Europe de l'Est a été absolument ratissée. L'extermination des Roms d'Europe de l'Est a été systématique. Je suis copropriétaire, semble-t-il, d'une collection de photos qui n'a pas été collectée par moi, mais par un collectionneur de photos sur la Wehrmacht et les tziganes. Nous avions vu une fois à l'ARES, lorsque l'ARES a fait sa session sur les images, le génocide en images, il y avait une personne qui était venue montrer quelques-unes de ces photos de la Wehrmacht montrant des tziganes. Eh bien, j'ai été sollicitée par un collectionneur, nous avons traité cette affaire ensemble, 350 photos de soldats de la Wehrmacht à travers l'Europe de l'Est au cours de ce que l'on appelle le Drang nach Osten, c'est-à-dire la pénétration vers l'Est des armées allemandes, c'est-à-dire jusqu'à en 1942 en quelque sorte, entre 1940 et 1942, les soldats allemands se photographiaient les tziganes. Et en les photographiant, ils construisent l'image raciste des tziganes, car ils les font poser dans des postures qui ne sont absolument pas naturelles aux tziganes. Par exemple, ils font fumer des petits-enfants de 10 ans posés sur les photos des petits-enfants de 10 ans avec des cigarettes, parce qu'ils trouvent cela exotique, la Wehrmacht, les soldats de la Wehrmacht. Bon. Ils font poser des femmes les seins nus devant l'objectif photographique. On n'a jamais vu une femme tzigane les seins nus, on n'est pas à Tahiti, etc., etc. Donc nous avons de nos jours des témoignages accablants pour les soldats allemands. Et comme vous le savez, on a souvent dit que la Wehrmacht n'était pas l'outil principal de l'extermination des Juifs et des Tziganes. Mais elle n'était peut-être pas l'outil principal, mais elle était un des outils, en tout cas.
Là, tu viens d'éclairer tout un pan d'une problématique assez nouvelle, à savoir cette volonté de l'historiographie allemande et même européenne de cacher le rôle de la Wehrmacht dans les différents génocides. Alors, il se trouve bien sûr que non seulement la Wehrmacht a participé, mais parfois elle a même innové. Et ça, c'est tout un pan nouveau de l'historiographie du génocide. Merci de nous le rappeler.
On le voit très bien sur ces photos, c'est très visible. On voit exactement que ce ne sont peut-être pas des bouchées sanguinaires de la phase finale, mais on voit qu'ils sont des agents actifs. Le regard qu'ils portent sur les tziganes est un regard déshumanisant. ils les construisent délibérément comme des autres, irrémédiablement différents. Et ils les privent de toute humanité, de toute spontanéité sur ces photos.
Mais est-ce qu'il n'arrive pas ce qui arrive, moi, que je souligne à chaque fois, parce que lorsque j'ai fait une campagne de recherche à Koblenz, où se retrouvent toutes les photographies qui ont été faites par ces propagandas, je ne sais plus comment on les appelle en allemand, ces corps de propagande qui suivent l'armée là où elle va,
oui.
Seuls ont le droit de prendre des photos. Seuls ont le droit de prendre des photos. Donc, lors de cette campagne à Koblenz, où j'étais accompagnée par une de nos, des membres de notre bureau qui est aujourd'hui inspectrice pour les écoles maternelles, parce qu'elle parlait l'allemand. Moi, je ne parle pas l'allemand, il me fallait quelqu'un qui traduise. Donc, j'étais surprise d'une chose, et je le fais remarquer à chaque fois, c'est que ces photos qui sont prises dans le but de déshumaniser, dans le but de montrer des races, entre guillemets, inférieures. En fait, quand on les regarde, nous, avec notre regard, eh bien, on subvertit cette volonté de déshumanisation. Ils nous sont plus sympathiques, ces gens-là, parce que il y a une espèce de pitié qui nous prend dans le regard. Et au lieu de devenir le symbole de la déshumanisation ou de la race inférieure, ils deviennent le symbole de victime. Et ça, c'est involontaire pour ces photos, mais il n'empêche que ça joue parfois.
Oui, mais c'est atroce de savoir que ces personnes qui sont photographiées ont peut-être péri dans un four crématoire, dans un des innombrables camps de tous les sévices possibles et imaginables qui ont été faits à ces populations. C'est absolument abominable. Donc, lorsque les associations de tziganes revendiquent le chiffre théorique de 500 000 victimes, je vous ai dit qu'elles étaient vraisemblablement proches de la vérité. Mais avec les fronts de l'Est, de la Shoah par balle, du Samoud Aripen par balle, les chiffres sont tellement exorbitants qu'il est bien possible que ces 500 000 victimes soient dépassées. C'est très possible. Donc, nous n'aurons certainement jamais de chiffres définitifs, mais la destruction sur les fronts de l'Est a été tellement massive que ça fait grimper les statistiques. Donc, en France, il n'y a eu aucun convoi, soyons bien clairs, aucun convoi de tziganes n'est parti de France à destination des camps de la mort. La destruction des tziganes en France a emprunté d'autres moyens, mais pas celui-là. Il y a dans le livre des tziganes d'Auschwitz, 145 noms de tziganes français qui ont été exterminés dans les chambres à gaz. 145, pas plus. C'est un groupe de gens qui ont été déportés depuis un camp de Poitiers vers la Belgique, à Malines. Puis, de Malines, déportés avec d'autres tziganes belges vers Auschwitz. Il n'y a eu aucune déportation directe de la France vers les camps de la mort. Il ne faut pas se tromper, aucun convoi. Et lorsque nous avons eu des tziganes citoyens français ou bien des tziganes citoyens européens réfugiés en France, car n'oubliez pas qu'il y avait en France des manouches, des Alsaciens qui étaient chassés par les occupants, il y avait des Allemands qui venaient se réfugier en France, il y avait des Espagnols qui fuyaient Franco, il y avait des Portugais qui fuyaient Salazar. Tous ces gens se sont trouvés en France comme les autres. Et lorsque ces gens-là ont été déportés vers Buchenwald ou Mauthausen, par exemple, qui sont les deux camps principaux que l'on connaît, c'était souvent parce qu'on les mettait à la place d'un résistant, pour que le résistant ne soit pas déporté, pour remplir les cases dans les wagons ou pour finir de remplir un wagon. C'était donc des déportations, nous dirons, sporadiques, pas explicitement volontaire et décidé. Voilà.
Pas de questions?
Si, je voulais justement intervenir, mais je n'avais pas vu, mon micro était coupé. C'est peut-être une ouverture par rapport à tout ce qui a été dit et qui m'a plongée dans une profonde réflexion, notamment au moment où Claire a dit Marzahn à Berlin. Marzahn fait partie de Berlin-Est. J'étais pas très loin avec les élèves chaque année et je n'ai jamais compris pourquoi on disait aux élèves de ne pas aller traîner à Marzahn le vendredi soir. Et effectivement, il y a eu un problème un soir où ils ont désobéi puisqu'ils étaient dans les familles, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, c'est un endroit où habitent des gens qui sont pauvres, peut-être des immigrés, peut-être de la discrimination, etc. Et je fais la même remarque sur Salier, j'ai enseigné à Arles, et Salier était principalement occupé à l'époque par des harkis.
Oui.
C'est lié, qu'est-ce que pense Claire?
Oui, absolument.
Il y a des restes qui n'ont pas été retravaillés par l'éducation, par l'instruction, par les professeurs d'histoire, etc., etc. Par les éducateurs, il y a quelque chose là, parce que ce sont toujours des lieux où une discrimination existe. Et on n'en parle pas, il y a une cape là-dessus, on n'en parle pas, hein, de la raison profonde.
Alors, je confirme que les camps français ont ensuite servi à interner des harkis et toute une série de après la Deuxième Guerre mondiale, sous la Quatrième, puis même Cinquième République, et toute une série de populations indésirables. Je confirme absolument, Annie, absolument. Mais sinon, je n'ai pas entendu convenablement la question. Alors, est-ce que vous pouvez me la reformuler?
Je pense, la question c'est pourquoi cet esprit de discrimination reste et pourquoi loge les gens les plus pauvres du coin de Berlin-Est, loge là et pourquoi existe ce dédain, ce mépris, cette peur devant Marzahn. Ils ont vraiment peur de Marzahn. Il ne faut pas y aller le soir, etc., etc. Alors, est-ce que ce sont des restes qui n'ont pas été retravaillés dans l'éducation?
Alors, je pense qu'il faut prendre conscience que le racisme anti-tsigane est un racisme très profond. Je pense que vraiment. Et on s'en rend compte lorsque on essaye précisément de déconstruire ce racisme, les stéréotypes. Mm-hmm. On se rend compte que ces stéréotypes sont infiniment profonds. Par exemple, je connais une femme, Manouche, en région de Lyon, qui est professeure d'histoire. Elle a une licence d'histoire, elle est manouche. Elle enseigne l'histoire dans un lycée. C'est une manouche pur porc. Tout ce qu'il y a de plus, manouche. Bon, d'autres sont… c'est-à-dire que si on commence à aligner la liste des métiers des classes moyennes qui sont occupés par des personnes d'origine tzigane, eh bien, on s'apercevra l'ampleur des stéréotypes. Par ailleurs, y compris chez les personnes qui se déplacent encore de nos jours, c'est-à-dire les forains. Qu'est-ce qui va distinguer un forain d'un autre forain? Qu'est-ce qui va distinguer un forain qui n'est pas tzigane d'un forain qui est tzigane, qui fait les marchés? Rien. Rien. Et pourtant, il y en a un qu'on va appeler nomade et l'autre qu'on va appeler forain. Donc, je pense qu'on n'a pas pris la mesure vraiment encore de la puissance et de l'enracinement des stéréotypes anti-tziganes. Non pas, ne soyons pas, ne tordons pas le bâton dans l'autre sens, non pas que certains d'entre eux ne se conforment pas à leurs stéréotypes avec une aisance qui nous laisse pantois. Je me souviens que au moment de la chute du mur, lorsque je travaillais en Europe de l'Est avec des militants roms pour la dignité des Roms, ils disaient toujours, en rigolant, qu'il y avait une petite fraction minuscule de Roms qui se conformait à leurs stéréotypes d'une manière absolument étonnante. Ça existe, évidemment, le mendiant du coin, etc. Mais tous les mendiants ne sont pas Roms, comme vous le savez. Par conséquent, il faut prendre la mesure de l'ampleur des stéréotypes. Et si l'on considère, par exemple, les tziganes français, c'est plus facile pour nous parce que nous savons les références de la citoyenneté, eh bien, rien ne distingue un citoyen français tzigane d'un autre citoyen français. Sauf s'il annonce qu'il a des antécédents, des familles, etc. S'il revendique une identité particulière. Ça, c'est autre chose.
Donc, merci à propos de Marzahn, parce que je n'avais jamais compris pourquoi il y avait un tel dédain.
Alors, Marzahn à Berlin?
Oui, à Berlin.
Oui, c'est ça. Alors, c'est en vue des Jeux Olympiques de Berlin de 1936 que l'on a regroupé en banlieue de Berlin ce grand camp de Marzahn sur lequel on a des photos et qui a préludé évidemment à leur déportation dans les camps.
D'accord.
Merci Claire, vraiment merci.
Merci.
Tu nous as régalé, merci.
C'est moi qui vous remercie. N'oubliez pas de rappeler à tout un chacun, lorsqu'il s'agira de génocide autour de vous, qu'il y a eu aussi un génocide des Tziganes.
Alors, Claire, est-ce que tu veux que je t'envoie l'enregistrement?
Pourquoi pas?
D'accord.
Quand tu auras le temps.